Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission spéciale consacrée encore à ce que l'Église fait ou respecte, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs émissions. Aujourd'hui, c'est l'Église respecte-t-elle l'amitié et l'amour? Respecte-t-elle l'amitié et l'amour? Il y a des gens qui ont des doutes là-dessus. Si vous voulez changer d'avis, vous pourrez venir au Centre Unitas dimanche après-midi. Le Centre Unistas m'a invité à présenter justement une belle entrevue faite à Radio-Canada dans le temps quand j'étais là comme réalisateur. C'est une entrevue avec Stan Rougier, qui est très connu maintenant, qui était aumônier de jeunes, c'est un converti, un prêtre extraordinaire. Il a écrit « L'avenir est à la tendresse » justement, et quantité d'autres livres. Et il va nous parler des jeunes et de Dieu, puis de sa foi, de sa conversion. Et justement, l'Église respecte l'amitié, puis elle le souhaite d'ailleurs. Mais avant d'aborder cette question, on pourrait voir rapidement ce que l'Église pense de nos sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Parce que les sens sont des facultés, évidemment, comme vous savez tous, qui nous permettent de saisir le monde matériel. Et puis le rôle aux sens, c'est de nous faire découvrir en particulier la beauté des choses. Et ce que Stan Rougier développe ça admirablement bien. Et j'ai eu la chance de mettre dans l'émission que je vais présenter dimanche après-midi au Centre Unistas des belles photos de la beauté des choses. Les sens, nos sens, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Comme notre corps, qu'il a façonné dans le sein de notre mère. Hier, à l'épître, à la lecture, à la messe, c'est un texte de l'Ancien Testament où une mère qui voit ses 7 fils se faire tuer devant elle le même jour, les interpelle parce qu'elle les a portés depuis le début de leur conception. Puis elle parle de ça, c'est beau, très très beau. D'ailleurs, oh mon Dieu, quand on y pense, l'usage de ses facultés, c'est bon en soi. Il faut quand même faire attention. Les sens ne sont que des instruments au service de notre âme. C'est ça qui est précieux. Mais nos sens aussi sont précieux, mais c'est l'âme surtout. Il faut donc que l'âme reste maîtresse des sens, non pour empêcher leur activité, comme c'est le cas, peut-être, semble-t-il, dans la religion bouddhique, mais au contraire, pour les mettre en valeur. Dans toute la mesure où leur développement devient, pour nous, là, une source d'enrichissement. Les sens sont une source d'enrichissement, d'amélioration, de perfectionnement. Je dirais même que les sens, c'est une source de sainteté, de sanctification. C'est en somme le résumé de la foi catholique. Et grâce donc aux sens, nous saisissons dans les objets matériels une note qui nous réjouit vivement, et c'est la beauté. Pensez à toute la beauté de la musique que nous vous faisons entendre à Radio Ville-Marie. Oui, c'est de la beauté que Dieu fait susciter dans le cœur des hommes, les compositeurs, puis les interprètes, les musiciens. Et tout ça, Dieu donne aux choses sa beauté, on pourrait dire. C'est lui qui a voulu leur accorder aux choses, en plus de leur rôle utilitaire, ce superflu qui rend un bon nombre d'entre elles particulièrement agréables à nos sens. Évidemment, il y en a qui qu'on peut dire que c'est pas très intéressant, mais la majorité des choses, même les animaux les plus curieux, les plus étranges, qu'on peut voir à la télévision de plus en plus, que l'on songe à la beauté de toute façon d'un coucher de soleil et d'une fleur, c'est tout simple, mais c'est si beau. Si beau. Un chant d'oiseau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui aiment les oiseaux, qui leur construisent des abris, les nourrissent. Pensez au sous-bois quand on se promène dans un sous-bois. Est-ce que c'est beau, hein? Et une des plus belles choses, c'est le corps humain harmonieux, et c'est fait comme ça, et c'est pour ça que c'est sanctifié dans le mariage. Et la perception du beau, c'est donc la perception, il me semble, moi, d'un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Cette perception ne peut être qu'approuvée, me semble, par le Christ et par son Église. Mon Église a suscité tellement de choses belles dans l'histoire. Tellement. Quand on regarde l'Église du bon côté, évidemment que On peut attaquer l'Église aussi. Je serai le premier, je pourrais vous en parler contre l'Église pendant une semaine, si vous voulez, mais ce n'est pas mon but. Car moi, je l'aime, l'Église, pour ce qu'elle a de beau. Un peu comme on aime sa mère, malgré ses défauts. Son père, malgré ses défauts. Ses enfants, on les aime, malgré leurs défauts. On peut même affirmer, il me semble, que l'Église possède en propre et communique au maximum à ses vrais disciples cette sympathie spéciale qui est nécessaire pour provoquer cette belle émotion qu'on appelle l'émotion esthétique, l'émotion qu'on ressent devant le beau. Hein, ça vous surprend peut-être? Eh bien, non seulement l'Église nous fait voir dans la nature une œuvre de Dieu, non seulement elle regarde comme des dons de Dieu là, les instruments, nos sens, qui nous donnent cette émotion. La vue, l'ouïe, nos oreilles, hein, c'est fantastique ça. Puis le goûter aussi, puis l'odorat. Puis, l'Église fournit à celui qui jouit de cette émotion la possibilité d'entrer dans l'intimité de l'artiste qui a tout fait ça, c'est Dieu. Oui, l'Église nous aide à rentrer dans l'intimité de Dieu. Elle répand dans notre âme la grâce, qui n'est autre chose que la présence de Dieu, en fait, en nous. Or, peut-on rêver meilleure disposition, me semble, pour apprécier une œuvre que celle d'être en contact immédiat, en communion là, étroite, avec celui qui a créé cette œuvre? Il me semble que ça change tout quand on regarde un coucher du soleil et qu'on sait que c'est Dieu qui a tout créé ça. On atteint des moments d'émotion et d'adoration qui sont extraordinaires et que les athées ne peuvent pas avoir. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'étonner de voir l'Église se montrer profondément sympathique au beau, qu'il s'agisse de la nature, œuvre de Dieu, ou qu'il s'agisse des beaux-arts, les œuvres des hommes. Pensez au musée du Vatican qui est rempli de belles choses. Pas tant de grands chefs-d'œuvre de l'art religieux à travers l'histoire, c'est inouï ce que l'Église a suscité. Mais devant la belle nature de Dieu, il suffit de lire attentivement l'Évangile pour voir combien le Christ Jésus admirait sans réserve la nature. Le Christ Jésus y vibre devant les moissons. Vous savez, les moissons de blé qui ondulent, qui blanchissent. Puis, il vibre aussi devant les lys des champs. Il dit « mieux vêtu que Salomon ». Il y trouve mieux vêtu que le roi Salomon. Il a bien raison, d'ailleurs. Puis devant les champs d'anémones rouges, là, il dit « plus riche que la pourpre de Salomon ». Devant cet petit oiseau, le passereau, là, qui ne tombe pas sur le sol sans la permission du Père. Même devant une poule, il dit qu'il rassemble ses petits sous ses ailes. Hein, il la voit. Il aime les poules. C'est à la nature que Jésus emprunte le plus grand nombre de ses exemples. Hein, il nous parle de la vigne féconde à laquelle il se compare. Il parle aussi du figuier. C'est si bon, des bonnes figues. Hein. Il parle du grain de sénévé, de la perle fine, hein, les belles perles. De l'âne et du bœuf même, de la brebis perdue, puis des agneaux, puis des poissons, puis de la colombe. On peut dire que c'est toute la nature qui se reflète dans le style imagé de notre Seigneur Jésus. Oui, c'est la même admiration que nous trouvons dans l'Église qu'il a fondée. À l'égard de la nature, hein, vous ne me croyez peut-être pas, mais sachez bien que l'Église y voit avant tout, non pas un laboratoire de chimie. C'est pas un laboratoire de chimie, la nature. C'est pas simplement un mécanisme savant comme ça qui existe par lui-même. C'est pas une source d'avantages matériels. Ça l'est, mais ce n'est pas ça que l'Église voit surtout. Mais elle voit surtout, puis elle nous l'apprend dès notre jeune âge, elle voit dans la création une œuvre d'amour. Une œuvre d'amour qui porte la signature de Dieu puis qui nous introduit auprès de lui. Oui, la nature nous introduit auprès de Dieu. Et pour elle, pour l'Église, les choses visibles sont surtout des messagers discrets qui nous parlent de l'invisible, qui nous conduisent à Dieu en nous révélant son intelligence, sa toute-puissance et sa bonté. C'est Saint Bernard, oh oui, je vais vous en parler bientôt, Saint Bernard qui dit « Va dans la forêt, les arbres et les pierres t'enseigneront ce que tu ne pourrais apprendre des maîtres. » Savez-vous que ce qu'on appelle la prière liturgique, à travers les choses, la prière liturgique de l'Église, là. Mais l'Église se promène à travers les choses créées en priant. Elle nous fait communier à ces choses-là. Pour mieux nous faire communier à Dieu. Oui, oui, C'est dans la prière liturgique, dans les psaumes que les prêtres récitent, que les moines récitent. Quand vous allez dans un couvent de moniales, elles récitent des prières. Mais c'est l'hommage officiel, ça, que les prêtres et les moines et les moniales doivent rendre chaque jour à Dieu. C'est le bréviaire, hein, comme on appelle ça, ou la prière des heures. Ça consiste dans la lecture, donc, des psaumes, où défilent souvent, transfigurés peut-être, les êtres de la création. Je ne vous donne que des exemples. C'est au psaume 148. C'est si beau. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et le firmament, le ciel, décèle l'ouvrage de ses mains. Le jour annonce au jour, et la nuit l'apprend à la nuit. C'est de la poésie superbe. Louez le Seigneur, louez-le, soleil et lune. Louez-le, brillantes étoiles, louez-le, eau suspendue dans les régions célestes. Louez-le, créatures de la terre, poissons et océans, feu et grêle, neige et glace, ça s'en vient, hein? Collines, arbres fruitiers, cèdres majestueux, animaux sauvages et troupeaux de toutes sortes. Pensez d'ailleurs à l'histoire que je vous ai racontée, et que vous connaissiez d'ailleurs, qui nous fait entendre le cantique des trois enfants dans la fournaise. Je vous ai déjà parlé du prophète Daniel. Tous les ouvrages de la création sont invités à louer le Seigneur. C'est superbe. Mais vous connaissez mieux, j'imagine, les plus vieux surtout, comme moi, les litanies de la Sainte Vierge. Quand l'Église veut louer la Vierge Marie, l'Église ne trouve pas déplacé de la désigner sous des termes très matériels. L'appel rose, mystique, tour d'ivoire, porte du ciel, étoile du matin. Il faut avoir des sens pour saisir ça. Et ses meilleurs saints ont chanté la nature en termes excellents. Et rappelez-vous, par exemple, saint François d'Assise, dans ses Fioretti, mais tout particulièrement son cantique des créatures. Vous connaissez ça. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes les créatures, spécialement pour notre frère le soleil qui nous donne le jour. Par lui, tu nous éclaires. Il est beau et rayonnant, et avec une grande splendeur, il nous donne une image de toi très haut. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la lune, et pour les étoiles. Au ciel, tu les formas claires et précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, et pour l'air et le nuage, et le ciel pur et tous les temps. Loué sois-tu aussi, mon Seigneur, pour notre frère le feu, par lequel tu nous éclaires la nuit. Il est beau et joyeux et robuste et fort. Oh, dans les églises catholiques à travers le monde, l'Église aime avoir des fleurs. Elle les multiplie dans la pierre et sur les vitraux. Il y a des symboles qu'elle puise dans la nature. L'agneau, la colombe, les rameaux. Ah, si la nature était mauvaise à ses yeux, elle se refuserait à tout cela, c'est sûr. Alors notre attitude est nette et nous devons, à l'imitation de l'Église, nous habituer à jouir de la nature. Oui, jouir de la nature. Alors, il faut chercher si on peut, il faut chercher à contempler avec admiration puis reconnaissance les forêts, les flots des rivières, des lacs et particulièrement de l'océan. C'est très impressionnant. Et grâce à la télévision, nous pouvons tous faire ça à l'occasion, même nous qui sommes âgés, qui ne nous déplaçons plus, qui ne voyageons plus, tous malades. Et devant ça, on peut crier notre amour pour Dieu. Il faut écouter aussi le murmure d'un ruisseau à l'occasion, le chant des oiseaux. Ça va revenir au printemps, là. Il n'y a rien comme de sentir aussi la terre fraîchement labourée dans les campagnes, ou les sous-bois avec leur parfum, ou toucher avec délicatesse la rose qui s'en trouve quand on reçoit des fleurs ou quand on en achète. Toucher les fleurs, c'est si beau. Puis sentir. Puis le fruit aussi, un beau fruit qui mûrit sur un arbre ou qu'on achète, qui est bon, là. C'est René Bazin qui a écrit cette belle prière. Seigneur, Seigneur, je vous remercie pour les couleurs dont j'ai tant joui, pour les formes qui ont une parole et pour cette nouveauté que vous mettez pour nous dans les choses familières. Je vous remercie pour les fleurs de chaque année, dans mon jardin et dans les champs. Je vous remercie pour les yeux purs et pour le sourire des enfants. Agir autrement, ce serait refuser, me semble, le don de Dieu, notre Père, et aller à l'encontre des enseignements de l'Église, notre Mère. Et de toute façon, On sait que les hommes et les femmes ne se contentent pas d'admirer les beautés de la nature. Hein. Ils s'efforcent à leur tour de créer du beau. Ils mettent leur intelligence humaine, on pourrait dire, dans la matière, informe, et qui s'offre à eux, là, puis la transforme. Comme les hommes, les femmes, artistes sont formés à l'image de Dieu, ben, ils veulent être comme lui, le créateur. Et puis, sensible au beau, bien, il cherche tout d'abord à le reproduire en lui-même, dans son attitude, dans ses gestes. Et puis, on peut dire que la vue des Alpes ou des Rocheuses, hein, ou de la vallée du Saint-Laurent, ou du Saguenay, ou d'une émission sur de jeux olympiques à la télévision, mais ça provoque dans les hommes et les femmes des pensées de grandeur, des désirs d'harmonie, un besoin d'ordre et de mesure, puis des attitudes plus nobles, qui sont déjà une réalisation de beauté, et c'est en dehors d'eux, là, surtout qu'ils cherchent à rendre l'impression ressentie dans leur sens au contact du beau, puis c'est l'origine de l'art. C'est une expression réfléchie, l'art, une expression réfléchie de la beauté, sous une forme sensible, hein, la peinture, la sculpture, la musique, la danse, etc. Et l'œuvre d'art ne consiste pas, évidemment, à reproduire servilement là, des traits, des attitudes, des couleurs, des sons tels que la nature les offre. Non, pour faire une œuvre d'art, un véritable artiste doit, comme dans les icônes, hein, doit, comme Dieu, y mêler sa pensée puis son génie. Il doit corriger, idéaliser, veiller à ce que le sensible ne retienne pas démesurément l'attention, mais que ça laisse apparaître, ou plutôt sa pensée. Hein. Faut avouer que beaucoup d'hommes sont actuellement trop utilitaristes pour aimer le beau. Ce qui suppose, pour aimer le beau, ça suppose le désintéressement. Aussi, ils savent plus apprécier une œuvre d'art. On doit ajouter à leur décharge, évidemment, que la technique moderne poursuit souvent un but bien utilitaire. La technique moderne s'attaque à la beauté, on dirait. Il s'applique simplement à reproduire en série toutes sortes d'œuvres insignifiantes. Ça diminue le goût du public, mais par ailleurs, les excès de certains artistes, peintres ou sculpteurs, puis aussi parfois des musiciens qui exagèrent, s'entraînent aussi une mésestime de l'art. Il y a des choses exagérées aujourd'hui. J'aime beaucoup l'art contemporain, j'aime beaucoup, je le reconnais, mais il y a des choses, là, je suis plus capable. Moi, des crucifix dans un pot d'urine, j'ai horreur. Et sous prétexte d'exprimer surtout une idée, ils en viennent à oublier que l'idée doit être présentée sous une forme suffisamment sensible pour faire naître la même idée dans l'intelligence du spectateur ou de l'auditeur. Mais parfois la forme est tellement éthérée, sensible, tellement peu subjectif que seuls quelques initiés saisissent. Il suffit d'aller d'ailleurs dans certaines galeries spécialisées où j'y vais, et je vois parfois de bien belles choses. Ou même au musée d'art contemporain, où il y a des belles choses, mais des choses horribles, insensées, invraisemblables. Ou même au grand musée du Canada, à Ottawa, au dernier étage. Hein? Grand Dieu! Mais quelle sera l'attitude de l'Église en face de l'art? Mais, après ce que je vous ai dit de son attitude à l'égard de la nature, on peut prévoir qu'elle sera sympathique à l'art. Hein? Elle a toujours, d'ailleurs, été vraiment sympathique à l'art, mais elle s'est trompée parfois. Il y avait de vieux bons qui ont mal compris certaines choses. Et l'Église est chargée d'élever les hommes vers Dieu, les femmes aussi, évidemment, les enfants, les vieillards, les malades. L'Église est chargée d'inspirer leurs prières et elle sait que l'être humain est un esprit, un corps uni. Et dès lors, elle doit favoriser tout ce qui met en éveil les sens au profit de l'homme. Alors, les sanctuaires, les églises constituent une partie très importante de la richesse architecturale de nos pays. Je vous en ai glissé un mot plusieurs fois. Nos belles églises qui ont été rénovées, refaites un peu, là. On a pu dire à bon droit que ces églises étaient la synthèse et la symphonie de tous les arts. Quand on y pense, deux secondes, on se rend compte que le culte catholique aussi, c'est un appel constant au sens. Ça a diminué en beauté peut-être, mais ça a grandi en sens et en simplicité. Qu'il suffise de voir se dérouler une belle cérémonie religieuse. Les ornements sacerdotaux, les fleurs, les statues, les éclairages. Les voix, quand les voix sont belles, hein, j'ai mangé hier midi avec l'abbé Jean-Pierre Couturier de la cathédrale, un nouveau prêtre qui chante tellement bien, il était un grand baryton dans le monde et il célèbre admirablement bien, c'est superbe. Bien l'orgue aussi. Que de grands organistes nous avons à Montréal. Hein? Puis l'encens même, puis les gestes du prêtre. Tout est destiné à éveiller, en fait, l'activité de nos sens. Le culte que l'Église rend à Dieu, elle veut qu'il soit humain. C'est pour ça que les sens y ont toujours leur part. Mais je répète, je dois avouer que nos messes sont un peu trop souvent dépourvues de cet appel aux sens, à tout point de vue. Il y aurait un grand travail à faire de ce côté-là. Mais c'est pas facile pour les prêtres. Hein? C'est pas facile pour les lecteurs non plus. Il faudrait peut-être que les lecteurs s'habillent mieux, qu'ils ne viennent pas nous lire ça en mini-jupe ou en jeans, qu'ils portent donc des aubes ou qu'ils se vêtent de beaux vêtements. Le culte que l'Église rend à Dieu, elle veut qu'il soit humain, donc. Aussi, on voit l'Église à travers les siècles protéger, puis encourager les artistes, et que l'on songe aux largesses des papes et des évêques de la Renaissance, sont même exagérés, hein, et que l'on parcourt les trésors d'Église et ses musées. Bon, d'accord, il y a des excès, mais il y a tellement de belles choses. On ne fait jamais rien sans se tromper. Si vous voulez ne pas vous tromper, ne faites rien, mais toute votre vie sera une grande tromperie. Il faut faire des choses, on se trompe, puis on demande pardon. L'Église a demandé pardon, l'Église fait des erreurs, mais l'Église a fait tellement de belles choses que je l'acclame. On voit là réunies des œuvres d'art dans ces musées, des œuvres religieuses ou profanes. Puis la sympathie dont elle entoure l'art va paraître évidente quand on regarde tout ça. Mais est-ce que je dois rappeler que l'Église a fourni à l'art des sujets incomparables, hein? Elle a fourni le Christ dans sa vie puis dans son œuvre. Elle raconte la vie de Jésus, puis les artistes en ont profité pour faire des œuvres magnifiques. Puis la vie de la Sainte Vierge et les saints. Que de belles choses, que de belles statues de saints, de belles œuvres d'art, même très modernes. Et si nous supprimions toutes les œuvres qui ont emprunté leur sujet à la religion chrétienne, mais la peinture, la sculpture, la musique même, seraient appauvries, très appauvries? Enfin, c'est mon avis. Mais tout en se montrant très favorable à l'activité des sens, l'Église nous rappelle que ce sont que des instruments qui doivent servir à l'élaboration de notre personnalité, à nous aider à réaliser notre mission. Laissés à eux-mêmes, les sens sont des serviteurs bornés, capricieux. Et puis, s'il faut les dresser, censés s'en vont au petit bonheur. Il faut donc des règles de prudence que l'Église donne à ses membres. Il ne s'agit pas de contrariété l'activité des sens, mais de la diriger, l'activité, pour le bien des hommes et des femmes et des enfants et des vieillards et tout le monde. Comme nous le faisons ici à Résuville-Marie, il y a des tas d'émissions qui traitent de ces questions-là. Mais je ne m'attarde pas au danger d'idolâtrie ou de fétichisme qu'on peut trouver devant des statues, tout ça. Ben, voyons, on sait que ça ne représente que des êtres invisibles. Que l'art n'ait aucun rapport avec la morale, nous semble c'est une idée fausse. On a fait des choses tellement horribles, et dans des films en particulier, et dans des émissions. L'artiste n'est pas un professeur chargé de nous enseigner une vérité. Il n'a pas reçu la mission de nous dire comment nous conduire. Et l'enseignement de l'Église est plus nuancé. L'art s'adresse directement à la sensibilité qu'il tente à enrichir. Et la sensibilité est un élément d'un tout qui doit se développer harmonieusement. Et l'art, me semble, doit satisfaire la sensibilité, puis aussi l'ensemble, puis tout particulièrement la volonté, qui doit chercher le bien. Et aujourd'hui, bien, il est question de savoir si l'Église respecte l'amitié et l'amour. Mais tout d'abord, j'ai voulu aborder le problème des sens qui servent justement à l'amitié et à l'amour. Qu'est-ce que l'Église pense de nos sens? Je vous ai parlé des œuvres d'art. Si une œuvre d'art crée une belle émotion esthétique, sans nuire aux profondes facultés humaines, évidemment que l'Église l'approuve. Alors elle approuve des abstractions admirables de Manessier. Elle approuve de très belles choses. Il y a des vitraux magnifiques, abstraits. Des tapisseries aussi au fond des chœurs, dans les églises modernes. Mais pourquoi pas? Et des œuvres stylisées, modernes, qui ont quelque chose de la stylisation des icônes orthodoxes, où il y a une stylisation. Et l'art roman, quand on y pense, il y a près de 1000 ans, c'était très stylisé. Alors c'est une œuvre qui profite à l'humanité que de faire des belles choses. Même si l'auteur n'a pas cherché vraiment à nous aider sérieusement, il a fait de belles choses et ça nous aide. Et au cas où cette œuvre enrichirait les facultés supérieures de l'homme, bien, elle est encore plus belle, il me semble, puisqu'elle introduit plus d'harmonie dans nos cœurs, dans nos arts. Et si l'œuvre d'art, tout en ébranlant profondément la sensibilité, elle nous entraîne vers le mal, il me semble que l'œuvre d'art, dans ce temps-là, cesse de respecter la hiérarchie des valeurs. Il me semble qu'elle est délicate et qu'elle devient parfois mauvaise en soi. C'est dommage. Et l'Église, ça lui arrivera de la condamner, quoique de plus en plus l'Église ne se prononce plus sur ces questions. Il y a trop de choses à condamner, peut-être. Quand on dit « l'homme », c'est un terme abstrait. Un être concret, homme ou femme, mais c'est un adolescent, une adolescente, un jeune homme, une jeune fille, ou quelqu'un qui est initié aux choses de l'art. Et devant une même œuvre, bien, les hommes et les femmes auront des réactions diverses. Ce qui impressionne agréablement celui-ci sans nuire à sa volonté peut troubler profondément celui-là, et dès lors, les principes indiqués plus haut vont s'appliquer différemment. Il ne faut pas être trop étroit d'esprit, il y a des gens qui se scandalisent de tout. L'œuvre sera donc jugée d'après le public auquel elle s'adresse, mais il ne faut pas être trop étroit d'esprit. Et l'Église favorise, de toute façon, de tout son pouvoir, les aspirations légitimes de notre sensibilité. Il y a des nudités dans la chapelle Sixtine, et l'Église ne s'en scandalise pas. Ce sont les esprits étroits qui s'en scandalisent. Car ce sont des nudités qui ne sont pas érotiques. Ce sont des nudités qui sont splendides. Un point, c'est tout, c'est ce que Léonard de Vinci a fait. Mais il est de son devoir à l'Église de nous rappeler sans cesse que le développement harmonieux de notre personnalité exige parfois des sacrifices, des limitations dans tel ou tel domaine pour qu'on grandisse. Et c'est pour ça que l'Église condamne, puis elle ne cessera jamais de condamner les films porno et toutes ces choses qui sont destructrices, vraiment destructrices de la capacité d'aimer une seule personne pour la vie, dans sa grandeur et sa beauté intérieure. Il me semble que c'est là montrer une véritable compréhension, puis un profond respect de la personne humaine, parce que là, dans ce qu'il a de plus beau, l'amour ou l'amitié, doit être préservé. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Église respecte l'amitié et l'amour en condamnant ces choses. Mais qu'il l'écoute, nous sommes envahis jusque dans nos foyers, sur quand on a le câble. Mieux vaut se tourner du côté des affections humaines. Est-ce que l'Église vraiment respecte l'amitié et l'amour? Mais nous allons voir l'Église exaltée tout en les épurant les affections humaines légitimes. Sous l'influence de la vie surnaturelle, les affections peuvent s'épanouir et vont s'épanouir à un degré qui n'a jamais connu ni même soupçonné l'Antiquité païenne. Pour admettre et respecter l'amitié, l'Église n'a qu'à regarder le Christ. C'est simple, on regarde Jésus et on voit que l'amitié pour lui c'était important. L'amitié suppose d'ailleurs une certaine égalité. Ça peut vous surprendre de la part de Jésus, mais oui, c'est fait homme. Pour la rendre possible, l'amitié, avec chacun d'entre nous, le Verbe s'est incarné. Il a comblé ainsi la distance qui nous séparait de Dieu. Et désormais, quiconque le désire peut entrer dans l'intimité du Christ et se dire son ami. C'est le Christ qui l'y autorise explicitement, il le dit, hein, « Je ne vous traite plus en serviteur, mais en ami. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous indique. » Et c'est là la clé. L'homme a cependant des préférences très légitimes, et le Christ n'a pas hésité à les manifester, lui, en faveur de certains apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Il aime à s'entourer de leurs personnes. Dans les moments de triomphe en particulier, comme la transfiguration sur le mont Tabor, lorsqu'il se manifeste à eux dans toute sa divinité, ou comme aux heures de tristesse, au jardin de Gethsémani, dans toute son humanité. Il a peur. Il demande des prières, il demande qu'on prie avec lui. Il demande qu'on veille avec lui. Et l'un d'entre eux, de ses apôtres, Jean, semble avoir conquis tout particulièrement le cœur du Maître. Il était plus jeune. Il avait une certaine fraîcheur d'âme, une limpidité de son regard, hein, il devait avoir 18, 19, 20 ans. Il avait une grande délicatesse de sentiment, genre on peut le voir dans ses textes, hein, ses épîtres, son évangile. C'est à lui que le Christ va confier ce qu'il y a de plus cher au monde. Il lui confie qui? Sa mère, Marie. Et le Christ compte aussi parmi ses amis préférés Lazare, qu'il va ressusciter. Quand il arrive à son tombeau, hein, son cœur de chair s'émeut, hein, c'est dit dans l'Évangile, puis il peut pas retenir sa douleur, puis il trouve ça normal de pleurer silencieusement, même s'il est Dieu. Il y a aussi les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, auxquelles le Christ accorde une place dans ses prédilections. Deux femmes, oui, afin que l'amitié avec ces femmes, dans son aspect évidemment le plus délicat, trouve en lui un modèle parfait. On est loin là d'un Christ préoccupé exclusivement de l'au-delà. Il ne rétrécit pas, on pourrait dire, le champ immense de son amour, il rétrécit pas ça, hein. Il laisse croître en lui, on pourrait dire, cette fleur très pure qui s'appelle l'amitié. Il est parfaitement humain. Jésus ne lutte pas du tout contre cette tendance très humaine, bien difficile à définir cependant, qui nous pousse à préférer certaines âmes, certaines personnes, en qui nos sentiments puis nos aspirations trouvent une résonance spéciale. Mais attention, les amitiés du Christ sont limpides. Elles ne les détournent pas de sa mission. Elles ne l'appauvrissent pas. Il n'y a rien de trop sensible dans son amitié ou d'amollissant. Non, ses amitiés, ça lui donne ce soutien mystérieux qui est le principal bienfait de l'amitié saine et sincère. Mais qu'est-ce que l'Église apporte à l'amitié? Bien, l'Antiquité a connu et célébré l'amitié, on le sait. Or, l'Église y introduit quelque chose de bien important, c'est la notion d'âme. Dès lors, il y a un champ immensément vaste qui s'ouvre à la communauté de sentiments, qui fonde l'amitié. Là, l'amitié peut s'enraciner plus profondément et s'étendre bien au-delà de ce qu'avait deviné le paganisme. Depuis, l'Église donne aux âmes sœurs de se fusionner dans une amitié supérieure, c'est celle du Christ, qui vient les mettre à l'abri des tendances trop sensibles puis les aider dans leur montée vers un idéal commun. Toutes ces grandes communautés religieuses, que sont les sœurs de la Providence, les jésuites, les dominicains, les dominicaines, etc., les bénédictines, ont une amitié profonde. Et je me souviens, j'étais novice. Ah, il y a une amitié fantastique, une fraternité. Qu'il est bon pour des frères de vivre ensemble, hein, c'est dans les psaumes. Mais enfin, l'Église nous enseigne que la mort n'est pas le terme de notre existence aussi. Elle nous permet de continuer au-delà de la tombe, cette communion d'âme. C'est pour ça que je vous parle des saints et des gens merveilleux qui ont vécu et qui sont morts et qui sont encore nos amis. Et la note de foi et d'espérance que l'Église met ainsi dans notre vie, mais ça dilate, ça enrichit d'une façon extraordinaire nos amitiés. Et voici ce que l'Église recommande. Toute chose en l'homme est dangereuse sur tout le cœur. Attention. Aussi, l'Église se doit de mettre garde en, de nous mettre en garde contre les fausses amitiés. Par sa morale, si vous voulez, par son éthique, comme on dit aujourd'hui, on n'aime pas le mot morale, il faut dire éthique. So what? Elle écarte tout ce qui pourrait flétrir ce sentiment, très humain et très pur quand même. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle exige de notre part une grande pureté d'intention, puis une vigilance continuelle. Il faut pas exagérer, là, mais il faut quand même être vigilant. Elle nous signale toutes les formes d'égoïsme que peut revêtir l'amitié. Il faut que l'amitié soit généreuse, si elle veut être chrétienne. Puis en agissant de la sorte, l'Église crée autour de nous une atmosphère favorable à l'épanouissement de la véritable amitié. Puis elle se montre, comme en tant d'autres domaines délicats, une mère très intelligente et très bonne. Car je vous le répète, l'Église, bon, malgré la bêtise de certains de ses membres, tout au cours de son histoire, mais l'Église est une mère, une véritable mère. C'est en elle et avec elle que le cœur de Dieu se livre à nous. Et quant à l'amour, on peut affirmer avec l'Église que Dieu est à l'origine de ces tendances supérieures qui poussent l'un vers l'autre, l'homme et la femme. C'est lui, Dieu, qui éveille et développe dans notre cœur ce besoin d'aimer et d'être aimé, de donner, de recevoir. C'est lui qui accumule en nous ces trésors d'amour que normalement nous dépenserions dans l'intimité d'un foyer. Le sec, Mais non, il nous faut dépenser dans l'intimité d'un foyer un amour grandissant. Étant amour, Dieu se donne. Étant parfait, il ne cherche rien en retour. Et son amour à Dieu, il est totalement désintéressé. Puis comme nous sommes créés à l'image de Dieu, bien l'homme et la femme sont destinés à se donner. Mais ce sont des créatures limitées, puis en voie d'achèvement. Alors l'homme et la femme cherchent aussi à recevoir pour se compléter. Et s'ils comprennent bien leur mission, ce sera pour mieux se donner encore. Alors dès lors, comme le flot d'amour divin que le Christ a répandu sur terre, puis que son Église propage, comment pourrait-il venir anéantir cette affection légitime que Dieu fait naître dans notre cœur, qui est l'amour, à l'encontre du paganisme d'autrefois et de celui d'aujourd'hui? Oui, nous sommes dans une période de grand paganisme. Eh bien, le catholicisme est imprégné d'un respect profond pour tout ce qui touche à l'amour. Oui, pour tout ce qui touche à l'amour. Voyons ce que l'Église pense de la femme. C'est un sujet brûlant. Avant la venue du Christ, la condition de la femme était misérable. Bon, d'accord. La littérature ancienne a créé des figures féminines très nobles, comme Iphigénie, Antigone, Andromaque. Mais l'histoire montre assez dans quel état de dégradation légale, morale et sociale vivait ordinairement la femme. Et le christianisme change profondément cette situation. Oui, on ne me croira pas, je le sais, mais je le dis quand même. Le christianisme érige en doctrine l'égalité des sexes. Oui, oui, l'égalité des sexes. Le christianisme reconnaît à la femme une âme immortelle et lui accorde comme à l'homme le bénéfice de la rédemption. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a ni esclaves, ni hommes libres. Il n'y a ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ et dans l'Épître aux Galates. C'est Saint Paul. Et quel que soit son état sur le plan moral, toute femme peut s'approcher de la croix au pied de laquelle le Christ a uni, dans un même amour, la Vierge, Marie, et Madeleine, la pécheresse, toutes les deux ensemble. C'est surtout la présence de la Vierge Marie dans l'œuvre de son Fils Jésus qui a créé autour de la femme cette atmosphère de respect. Et durant les siècles, des milliards d'hommes ont joint les mains pour dire « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Comment ce respect dont Marie est entourée n'aurait-il pas rejailli sur toutes ses sœurs, hein? Elle est, après Jésus, après Dieu, Jésus, l'être humain le plus important. Aussi, on voit la courtoisie fleurir au sein de la civilisation chrétienne. Et les chevaliers du Moyen-Âge, surtout, nous l'ont montré. Eux qui couraient des risques et des aventures, qui enduraient des peines puis toutes sortes de problèmes pour la dame de leur pensée, comme ils disaient. Car ils voyaient en elle quelque chose de la grâce de celle que nous appelons tous Notre-Dame. Et on arrive au point important. L'amour chrétien transfigure la femme. L'Église fait de celle-ci l'âme sœur de l'époux, le cœur du foyer, l'éducatrice par excellence de l'enfant. Mais on refuse ce rôle. Aujourd'hui, quelle tristesse! L'Église loue sa maternité et on refuse la maternité. L'Église loue sa pureté, mais on ne la veut plus pure. On lui donne toutes sortes d'instruments pour qu'elle fasse l'amour. Mais on se moque de cela aujourd'hui, de tout ce que l'Église enseigne, et dans la mesure où la doctrine chrétienne ne pénètre plus les mœurs publiques ou privées, mais l'amour perd son sens, et la femme redevient, sous des dehors très raffinés, mais très civilisés, le jouet, oui, des passions de l'homme, l'instrument nécessaire à l'assouvissement de ses instincts, l'esclave d'un être égoïste, et c'est la pilule, le stérilet, puis tout le reste qui la réduit à être, malheureusement, un objet qui doit dire oui en tout temps, partout, même quand elle n'a que 13 ans, et on en arrive à oublier le mariage. Or, le mariage, dans l'Antiquité, ressemblait plus à une affaire commerciale qu'à une véritable association de deux personnes en vue d'une tâche commune, et l'Église a changé ça. Oui, Dieu est là où est la charité et l'amour. Et le Christ, lui, il a fait du mariage contre la coutume d'alors. Un lien indissoluble. Il veut que le mariage soit un don total et irrévocable entre deux êtres qui ne feront plus désormais qu'une seule chair. et qu'une seule âme, pour mieux réaliser leur mission humaine. Saint Pierre en parle dans sa première épître. Femme, soyez soumises à vos maris. Aujourd'hui, il ne faut plus dire ça. Hein? Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut bien lire le texte, là. C'est pas de la soumission idiote. Non, c'est de l'amour. Femmes, soyez soumises à vos maris afin que s'ils ne sont pas chrétiens, ils soient gagnés au Christ par la conduite de leurs femmes. Si une femme veut convertir son mari, il faut qu'elle l'aime. Il faut pas qu'elle l'engueule, qu'elle lui désobéisse et qu'elle sorte tous les soirs et puis je ne sais quoi. Mais non. Et qu'est-ce que Saint-Pierre dit au mari? Il est encore plus dur. Il dit, Marie, conduisez-vous avec sagesse. Cessez d'être des imbéciles, en d'autres termes. Conduisez-vous avec sagesse à l'égard de vos femmes. Et il ajoute, les traitant avec honneur. Honorez vos femmes. Les honorez, oui. Puis il ajoute, puisqu'elles sont avec vous, héritières de la grâce qui donne la vie. Il rappelle que les femmes donnent la vie, elles méritent tout l'honneur de la part de l'homme, et l'homme doit se conduire avec sagesse. Et il ajoute qu'il y ait entre vous union de sentiments, bonté compatissante, charité fraternelle, affection, indulgence, humilité. On en demande beaucoup, hein? Mais c'est ça un mariage, un vrai mariage. Jésus n'hésite pas à élever le mariage au rang de sacrement. Il en fait donc un signe sensible de la grâce. Il en fait, le Christ, un moyen d'augmenter l'emprise de la vie divine sur les âmes. Et pour marquer de quelle estime il entoure cette union, il assiste aux noces de Cana, vous vous souvenez? Même qu'il y opère en faveur des époux, le premier miracle qui prouve sa divinité et que relate l'Évangile, puis c'est un miracle bien sympathique, hein? Il change l'eau en vin. Un homme sympathique, notre Jésus, hein? L'union de l'homme et de la femme dans le mariage est tellement extraordinaire que saint Paul ne craint pas de la comparer à celle qui s'établit entre le Christ et son Église. Le texte de saint Paul est aujourd'hui honni et détesté, mais je vous le lis quand même. Oh, c'est pas une émission facile aujourd'hui. De même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Parce que quand un mari aime sa femme comme le Christ aime l'Église, c'est une affaire de rien pour la femme d'entourer son mari d'attention puis de gentillesse puis de bonté. Et les mariages sombres parce que souvent les hommes sont d'un égoïsme épouvantable, où les femmes deviennent insoumises et invraisemblables. Triste, triste. Pourtant, le monde ancien n'a jamais soupçonné pareille grandeur dans le mariage. Mais qui veut entendre? Ceux qui écoutent ça trouvent le bonheur. J'en connais. J'en connais beaucoup, heureusement. Bon, oui, je pourrais vous en nommer. Ils sont heureux dans leur mariage parce qu'ils vivent ça. Mais venons-en à l'enfant. Les fruits de l'amour. L'enfant, la fille surtout, avait dans l'Antiquité une situation juridique bien précaire, à peu près nulle. Hein? Saviez-vous qu'à Athènes, la femme avait le droit d'étouffer son enfant à sa naissance? On en arrive à ça bientôt. Hein? À Sparte, il était la propriété de l'État, et les anciens permettaient de s'en débarrasser. Comment? En l'exposant sur une montagne, le mont Tégète. À Rome, la loi était formelle. Hein? Qu'est-ce qu'on dit à Rome? Si l'enfant est contrefait, que le père le tue de sa main sans formalité. C'est le texte. C'était comme ça. Mais on revient à ça. Actuellement encore, là où le christianisme ne s'est pas fortement implanté, là aussi le christianisme est méconnu et rejeté de la vie publique, on retrouve le même mépris de l'enfant. Dans les régimes totalitaires, c'était comme ça. On a vu ça dans notre siècle. On s'intéresse tant à l'enfant, et c'est parce que c'est un instrument au service d'une idéologie. Ça devient comme ça. Le Christ est venu, lui, petit enfant, dans une crèche, et plus tard, il va dire, laissez venir à moi, les petits enfants. Ce que vous ferez aux plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous le ferez. Et l'Église puise auprès de la crèche de Bethléem, et dans les paroles du Christ, quoi, elle puise quoi, un amour maternel pour le jeune âge. Elle s'efforce de nous l'inculquer, c'est ça qu'on voit dans les crèches, l'amour du petit. Elle protège l'enfant dès sa conception, l'Église. Pourquoi? Parce que c'est scientifiquement prouvé que l'enfant est là. On a des photos. Elle se penche sur lui dès sa naissance. Aussi, afin de lui donner la grâce, elle le défend contre les exigences abusives de certains parents et de certains États. L'Église multiplie les œuvres en sa faveur, des crèches, des écoles, des orphelinats, mais comme il n'y a plus d'enfants, ben il n'y a plus d'orphelinats. Mais elle multiplie les dispensaires un peu partout à la surface de la Terre, des centres de refuge pour les enfants de la rue, pensez à Pops, Father John's. Notre vie sociale est bien trop imprégnée de christianisme pour que on se rende compte que l'amitié et l'amour ont grandi à cause de l'Église. On est en train de tout détruire ça. En fait, l'Église les a purifiés, l'amitié et l'amour. Elle les a anoblis. Elle les a exaltés au-delà de toute mesure. Vous croyez que j'exagère, peut-être? L'Église est actuellement le seul foyer, on peut dire, où le cœur humain, dans ses affections les plus profondes, sont intégralement respectés. J'oserais même dire que les autres religions, même chrétiennes, n'en sauvegardent pas avec autant de vigueur tous les droits. Je n'ose en donner des exemples, mais j'ai vu hier des tas de pasteurs protestants préconiser l'avortement. C'était à PBS hier soir, pendant 2 heures et demie. L'Église a condensé toute sa doctrine en faveur de l'amitié et de l'amour dans une dévotion qui est largement propagée, mais qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. C'est la dévotion au Sacré-Cœur, à ce cœur charnel, gonflé d'amour des hommes et ouvert à toutes les confidences qu'on veut lui faire à ce Sacré-Cœur. Comment dès lors ne pas voir dans l'attitude de l'Église à l'égard du cœur une preuve nouvelle de son origine divine? Dieu seul peut fonder une œuvre qui respecte à ce point notre nature humaine. Quand est-ce qu'on va comprendre combien l'Église nous enseigne des vérités très importantes? Ô Seigneur, Seigneur, pourquoi m'avez-vous dit d'aimer tous mes frères, les hommes, les femmes?